Chapitre 27. Dans la rue de Cedergatan, près de Helsingborg, se trouve une grande maison au crépi blanc et au toit de chaume clair. Le petit matin a enveloppé le beau parc dans une brume grisâtre, mais les fenêtres au rez-de-chaussée rayonnent d'une lueur jaune. La villa est sertie comme un morceau d'ambre dans une broche d'argent. Niels Gilbert se réveille en sursaut. Il a dû s'assoupir dans le fauteuil roulant. Son visage est brûlant et son cœur bat lourdement. Le soleil n'a pas dépassé les cimes des arbres. La maison et le parc se trouvent encore dans l'ombre. Pour l'instant, le jardin ressemble à un morne royaume des morts. Il essaie de voir si Ali est arrivé, s'il a pris la brouette et la pelle dans la remise. Quand Neil s'avance vers la porte de la cuisine pour faire entrer un peu d'air, il entend un raclement étrange. Le bruit semble provenir du grand salon, et il se dit que ça doit être le chat qui veut sortir. « Lizzie ?» Le bruit s'arrête net. Il écoute un instant avant de se renverser contre le dossier. Ses mains se mettent à trembler sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Ses jambes se contractent et tressaillent, danse absurde que personne ne voit. Il a dissimulé les signes de la maladie de Parkinson aussi longtemps qu'il a pu, la raideur dans un bras, le pied qui traînait, son écriture qui s'altérait, jusqu'à ce que les lettres deviennent si microscopiques que même lui n'arrivait plus à les déchiffrer. Il ne voulait pas qu'Eva s'en rende compte. Et puis c'est elle qui a pris les devants en mourant 3 ans plus tôt. Il n'avait pas compris que c'était un infarctus. Il ne savait pas que les symptômes chez les femmes pouvaient être différents. Eva s'était plainte d'être fatiguée pendant plusieurs semaines. C'était un samedi. Elle venait de rentrer du centre commercial de Vela, les bras chargés d'achats. Elle avait eu des difficultés pour respirer, avait senti une pression dans la poitrine et avait dit avec un sourire qu'elle sentait un gros rhume arriver. La sueur coulait sur ses joues pâles quand elle s'était assise dans le canapé. Elle s'était allongée et était déjà morte quand il lui avait demandé s'il devait allumer la télé. Maintenant, il ne reste plus que lui et la grosse Lizzie. Il peut se passer des semaines sans qu'il rencontre quelqu'un avec qui parler. Parfois, il a peur de perdre sa voix pour de bon. Une des rares personnes qu'il croise est la fille qui s'occupe de la piscine. Elle se balade en jean et haut de maillot de bain, et elle est manifestement gênée quand il essaie d'engager la conversation. La première fois qu'il s'est adressé à elle, elle l'a regardé comme s'il avait 90 ans ou un grave handicap mental. Ceux qui lui livrent les repas sont toujours pressés. Ils veulent qu'il signe vite pour pouvoir repartir rapidement. Et la kiné, une femme bourrue avec une grosse poitrine, se contente de faire son travail. Elle lui donne de brèves instructions et fait semblant de ne pas entendre ses tentatives de faire la causette. Le seul qui a du temps, c'est l'Irakien de la société de jardinage. Ali entre parfois à boire un café avec lui. En réalité, c'est pour lui que Niels continue à maintenir la piscine en état. Et pourtant, il n'a jamais osé lui proposer de s'y baigner. Ali travaille dur en général. Il a le dos en sueur. Niels sait qu'il fait appel à lui beaucoup trop souvent. C'est pour ça que le jardin est aussi beau, avec des buissons soigneusement taillés et des haies bien entretenues, des tonnelles verdoyantes et des allées sans une mauvaise herbe entre les dalles. Le silence règne toujours ici. Un silence pesant. Niels réprime un frisson, essaie de manœuvrer le fauteuil avec ses mains et part dans différentes directions avant de réussir à tourner le fauteuil et à le piloter jusqu'au jukebox. Il l'a acheté quand il avait 20 ans. Un authentique Seaberg, construit par le Suédois Sjöberg. Autrefois, il remplaçait les 45 tours de temps en temps, écrivait de nouvelles étiquettes à la machine qu'il plaçait sous la plaque de verre. Il prend la pièce dans la coupelle, l'insère dans la fente, l'entend tomber et activer la machinerie avant de se retrouver de nouveau dans la coupelle. C'est la même pièce d'une couronne qu'il utilise depuis toutes ces années. D'une main tremblante, il appuie sur les touches C et 7. Avec un bourdonnement, le disque est sélectionné et placé sur la platine. Niels s'éloigne un peu et entend l'extraordinaire intro du batteur Stargazer. Il est propulsé dans une époque révolue quand il a vu Rainbow à la Maison des Concerts de Stockholm à la fin des années 70. Le groupe avait commencé avec plus d'une heure de retard, mais lorsque Dio était entré et avait entamé Kill the King, des vagues de fans déferlaient vers la scène. Neil avance son fauteuil jusqu'aux baies vitrées. Chaque après-midi, il baisse les stores devant les grandes vitres donnant sur l'ouest pour protéger ses œuvres d'art de la lumière crue. À travers le nylon, le jardin est plus sombre et plus gris. Cet endroit, sans enfants et sans petits-enfants, doit sembler terriblement triste à Ali. Neil sait très bien que sa villa somptueuse n'est que du tape-à-l'œil vulgaire, que le parc est exagéré et que personne n'utilise la piscine. Sa société a conçu une technologie électronique avancée pour radars et commandes de vol. Il a entretenu d'excellents rapports avec le gouvernement et a pu exporter des biens et des équipements à double usage pendant près de 20 ans. Il a soudain la chair de poule. Malgré la musique tonitruante, il lui semble entendre un petit enfant réciter une comptine. Il fait pivoter son fauteuil et se dirige vers le vestibule. La voix provient de l'étage qui est condamné. Il avance jusqu'à l'escalier qu'il n'a pas utilisé depuis tant d'années et voit que la porte de la chambre est entr'ouverte. La musique du jukebox s'arrête. Ça crépite et bourdonne quand le 45 tours est remis à sa place, puis tout devient silencieux. Nils a développé une peur du noir il y a 6 mois après un horrible cauchemar. Sa femme revenait d'entre les morts mais tenait debout uniquement parce qu'elle était empalée sur un gros pieu en bois allant de l'entrejambe jusqu'à la tête. Elle était en colère parce qu'il n'avait rien fait pour l'aider, même pas appelé une ambulance. Le pal ensanglanté touchait le sol, obligeant Eva à marcher d'une façon bizarre, les jambes écartées quand elle le suivait. Nils pose les mains sur ses genoux. Elle bouge toute seule, se lance dans une gesticulation vaine et exagérée. Quand elles se sont calmées, il resserre au-dessus de ses cuisses la courroie qui l'empêchera de glisser du fauteuil si les tremblements devaient reprendre. Il va dans le salon et observe la pièce. Tout semble normal. Le lustre, les tapis orientaux, la table en marbre et l'ensemble fauteuil-canapé de style gustavien qu'Eva avait hérité de ses parents. Le téléphone n'est plus sur la table. Parfois, la présence d'Eva dans la maison est tellement réelle qu'il imagine que la sœur de sa femme a un double des clés et rôde comme dans un film de Scooby-Doo pour lui faire peur. Il s'approche de la cuisine quand il aperçoit quelque chose du coin de l'œil. Il tourne vivement la tête et pense voir un visage dans le miroir ancien avant de comprendre, comme tant de fois déjà, que ce n'est que la tache d'humidité sur le verre. « Lizzie ?» appelle-t-il d'une voix faible. Un tiroir s'ouvre dans la cuisine. Des pas résonnent sur le sol. Il s'arrête, le cœur martelant, fait pivoter le fauteuil et visualise le sang qui coule le long du pieu entre les jambes d'Eva. En silence, il pousse sur les mains courantes du fauteuil et avance vers les grandes portes-fenêtres de la terrasse. Il entend le faible bruissement des roues sur le parquet. Maintenant, Eva traverse la cuisine, les jambes écartées. Le poteau racle le carrelage, imprime une trace rouge et bute contre le seuil de la salle à manger. La comptine stupide résonne à nouveau. Ça doit être la radio qui est restée allumée dans la cuisine. Le repose-pied du fauteuil roulant va cogner la porte vitrée avec un petit tintement. Il regarde la porte entr'ouverte de la salle à manger qui se reflète dans le verre. Ses mains tremblent et la raideur de sa nuque lui complique la tâche lorsqu'il se penche en avant et appuie sur la commande du store. La toile de nylon gris se lève comme un rideau de théâtre et le jardin apparaît progressivement dans les couleurs claires de l'aube. Les transats sont en place, des aiguilles de sapin se sont accumulées dans les plis des coussins. L'éclairage du bassin n'est pas allumé, mais de la vapeur chaude s'échappe de l'eau. Dès que le store sera entièrement remonté, il pourra ouvrir la porte et sortir. Il va attendre l'arrivée d'Ali dehors et lui demander de vérifier toute la maison. Il va lui avouer qu'il a peur du noir au point de garder la lumière allumée la nuit et il va peut-être lui payer un supplément pour rester plus longtemps. Il tourne la clé dans la serrure en tremblant. Il entend le cliquetis, baisse la poignée et pousse un peu la porte. Il recule, jette un regard en direction de la salle à manger et voit l'appel d'air faire bouger lentement la porte. De toutes ses forces, il se propulse droit dans la porte-fenêtre qui s'ouvre grand sous l'impact, et il a une vision fugace de quelqu'un qui s'approche de lui par derrière. Il entend des pas lourds quand il avance sur les dalles et sent l'air frais caresser son visage. « Ali, c'est toi ? » crie-t-il d'une voix apeurée. « Ali !» Le jardin est immobile, la remise à outils fermée. La brume matinale flotte au-dessus du sol et le faible vent fait trembler les massettes près de l'étang. Il essaie de faire demi-tour, mais une des roues s'est coincée dans l'interstice entre deux dalles. Il a du mal à respirer et tente d'arrêter les tremblements en glissant ses mains sous ses aisselles. Quelqu'un s'approche de lui, venant de l'intérieur de la maison. C'est un homme cagoulé, portant un sac noir à la main. Il vient vers lui, masqué comme un bourreau. Nils tire sur les mains courantes sans parvenir à dégager le fauteuil. Il s'apprête à appeler Ali de nouveau lorsqu'il sent un liquide froid couler à flot sur sa tête, ses cheveux, sa nuque, son visage et sa poitrine. Il ne lui faut que quelques secondes pour comprendre ce qu'il se passe. Le sac noir n'est pas un sac, c'est le bidon d'essence de la tondeuse à gazon et l'homme masqué est en train de le vider sur lui. « Attendez, je vous en prie, j'ai de l'argent, plein d'argent. Je vous promets, je peux vous faire un virement de tout ce que je possède. » Allait-il, et les vapeurs d'essence le font tousser. L'inconnu tourne autour de lui, verse les dernières gouttes sur sa poitrine et lâche le bidon vide par terre, devant le fauteuil. « Mon Dieu, s'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez. » L'homme sort une boîte d'allumettes et prononce quelques mots incompréhensibles, des mots engloutis par la panique qui gronde en Nils, s'engouffrent lentement comme des pièces de monnaie scintillantes dans un puits. « Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça !» Il essaie de défaire la courroie qui lui serre les cuisses, mais elle s'est vrillée et elle est trop serrée. Il tire désespérément. Sans se presser, l'homme allume une allumette et la lance sur ses genoux. Un petit effet de souffle se produit, suivi d'un vacarme assourdissant, comme celui qui s'élève lors d'un saut en parachute. L'ange de la mort l'entoure de ses ailes terrifiantes. Son pyjama, ses cheveux brûlent, et à travers la lueur bleue, il voit l'homme masqué tituber en arrière, repoussé par la chaleur. La chanson enfantine tourne dans sa tête tandis que la tempête s'abat autour de lui. Il n'arrive pas à alimenter ses poumons en oxygène. C'est comme s'il se noyait, puis subitement la douleur fuse, une douleur absolue qui l'assiège. Jamais il n'avait imaginé que quelque chose d'aussi monstrueux puisse exister. Il se penche en avant, cherchant à se mettre en position fœtale, et entend au loin un crépitement métallique lorsque le fauteuil roulant commence à se tordre sous l'effet de la chaleur. Avant de perdre connaissance, Nils a le temps de penser que le bruit ressemble à celui du jukebox lorsqu'il cherche un nouveau disque.